Le triple meurtre de la rue X. Comment ? Vous n'avez pas entendu parler de ce terrible événement ? Pourtant, la rue X, c'est bien celle où vous demeurez. Et le crime a été commis tout près de chez vous. Les journaux, dites-vous, n'en ont pas parlé ? C'est étonnant. En effet, mais se commettant de crimes à Paris, et les journaux ont bien d'autres sujets d'articles, la politique, les courses, le théâtre... Le drame que je vais vous narrer ne leur a pas paru sans doute aussi intéressant que les mille faits divers qui encombrent leurs colonnes, et c'est dommage, parce que si les journaux s'en mêlaient, peut-être de pareils attentats deviendraient-ils plus rares. Eh bien, figurez-vous que vous avez eu pour voisin, jusqu'à ces jours-ci, un homme, un ouvrier, père de 3 filles charmantes. L'aînée, Eugénie, élevée à la campagne, était une robuste et vigoureuse ménagère. C'est elle qui faisait marcher la maison. Grâce à elle, l'ordre et l'abondance régnaient au logis. Belle et bonne, chantant du matin jusqu'au soir, c'était plaisir de la voir, les manches retroussées, travailler avec entrain, sans lassitude apparente. La seconde, Sophie, moins forte que sa sœur, n'était pas moins utile qu'elle au bonheur commun. Douée d'un jugement solide, c'est elle qu'on appelait à la maison le ministre d'État. En toute chose, son avis était toujours le meilleur, et le père se trouvait bien de le suivre. Elle était fort intelligente et amie de la lecture, aussi charmait-elle les soirées d'hiver par ses causeries. La troisième, enfin, la mignonne Blanche, n'avait ni l'énergie physique de sa sœur aînée, ni le brio extraordinaire de Sophie. En revanche, elle avait la douceur, le sentiment... C'était une délicieuse fleur de pureté, de candeur et d'exquise délicatesse. Sa présence rendait le foyer plus sacré. Devant elle, personne n'eût osé effleurer des sujets scabreux, et aucune de ses deux sœurs n'aurait même pensé à faire ce que Blanche eût désapprouvé simplement par son silence. Voilà, direz-vous, un homme heureux avec 3 filles pareilles qui se complétaient si bien. Eh bien, vous ne me croirez pas. Tant la chose vous paraîtra monstrueuse. Cet homme, depuis quelque temps, semblait n'avoir qu'une idée en tête, empoisonner ses 3 filles. Peut-être cela lui était-il venu à la suite d'un grand chagrin qui lui faisait prendre la vie en grippe. On m'a affirmé que le malheureux, tout d'abord, avait voulu rendre ses filles plus fortes par ses drogues. Mais j'ai peine à croire qu'il fut fou à ce point. Ce qui est sûr, c'est que notre homme, chaque matin... faisait avaler de force à ses charmantes filles un poison de couleur verte qui leur faisait pousser des cris et les rendait folles. À midi, avant de se mettre à table, il recommençait. Parfois, après le repas, il leur versait un breuvage brun ou jaune et le soir répétait les mêmes choses. Les pauvres filles ne se laissaient pas faire sans protester. Eugénie lutta désespérément, resta au lit pendant des journées, le visage contre la muraille, afin d'échapper au poison quotidien. Sophie, un jour, pleine de fureur et de désespoir, jeta les meubles par la fenêtre, au grand scandale des voisins. Quant à Blanche, la pauvre petite Blanche, elle se bornait à pousser des cris étouffés, à pleurer en silence et s'étioler peu à peu. Un matin, elle était morte. Une fois Blanche partie, les deux aînés résistèrent de moins en moins. La vie n'avait plus de charme pour elles. Le père insensé put leur faire avaler chaque jour des doses triplées. Sophie succomba. Ceux qui la virent au lit de mort n'oublieront jamais ce navrant spectacle. Elle riait, chantait à tue-tête, se croyait riche et princesse, et quand sa sœur, presque aussi malade qu'elle, voulait la calmer, elle lui arrachait les cheveux. Eugénie partit la dernière. Quand elle mourut, elle n'était plus qu'un squelette, sa face tuméfiée, ses yeux hors de la tête, ses cheveux déjà gris, prouvaient combien elle avait dû souffrir. « Assez, assez !» me criez-vous. « Quel abominable conte nous faites-vous là ? Jamais rien de pareil n'est arrivé dans mon quartier. Et d'abord, votre histoire est pleine d'impossibilités. Pourquoi cet homme aurait-il voulu tuer ses filles ? Qu'est-ce que cela devait lui rapporter ? Et où aurait-il pu se procurer la quantité de poison nécessaire à un pareil forfait ? Car enfin, dans notre beau pays, on ne vend pas le poison à la bouteille sans ordonnance du médecin. » Le droguiste était-il donc complice ? Et les voisins ? Et la police ? Tout ça ne tient pas debout. Je vous le disais bien, cher ami, que mon histoire est invraisemblable, et que vous ne la croiriez pas. Elle est vraie, pourtant. Le misérable père aimait ses filles, et la preuve c'est qu'il est mort quand est morte la dernière. Mais on lui avait fait croire que ses drogues étaient salutaires. Il les administrait donc en bonne conscience, sauf à certains moments où des éclairs de bon sens lui montraient son erreur. Quant au droguiste, comme vous l'appelez fort justement, c'est un homme honorable, estimé et influent dans le quartier, surtout au moment des élections. Il paye une forte patente et vend à huis clos ses poisons infernaux. Sa boutique, d'ailleurs, n'est pas la seule. Il a 450 000 collègues en France. Les voisins, beaucoup d'entre eux sont des clients du droguiste. La police, s'il fallait qu'elle intervienne pour empêcher tous les ivrognes de boire. Ah, voilà que je livrerai l'explication de mon apologue. Ce père criminel, c'est le buveur d'alcool, votre voisin. Il y en a dans toutes les rues, à tous les étages. Sa fille, Eugénie, c'est sa santé. Sophie, c'est sa raison. Blanche, c'est sa conscience. Pauvre petite Blanche, c'est toujours elle dans chaque individu qui meurt la première. Et quand elle est partie, mieux vaut après tout que les autres meurent aussi. La police elle-même compte dans ses rangs nombre de ses criminels. Pour arrêter tous les buveurs d'absinthe, il faudrait que la moitié de la France mit l'autre en prison. Et ce triple assassinat se renouvelle tous les jours. L'âme, le corps, l'esprit sont tous les jours sacrifiés sur l'autel du dieu alcool. Les prisons, les asiles d'aliénés et les cimetières s'emplissent de ses victimes, tandis que l'autorité paternelle de l'État protège les cabaretiers et les distillateurs et continue à percevoir sa part de leurs exécrables bénéfices. Pourtant, vous avez raison, il est défendu en France de s'empoisonner. Ainsi, le pharmacien l'autre jour m'a refusé quelques gouttes de laudanum pour guérir une névralgie. « C'est trop dangereux, m'a-t-il dit. Il faut une ordonnance. » Quand donc faudra-t-il une ordonnance pour consommer de l'absinthe ou tout autre poison alcoolique?